les Français majoritairement n'ont pas confiance dans leur gouvernement et dans la capacité de celui-ci à déconfiner dans des conditions sanitaires acceptables, dans des conditions de sécurité absolue. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Luc Rouban. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment publié « La matière noire de la démocratie » aux presses de Sciences Po, Luc Rouban. Il y avait dans The Economist un article ce week-end où il était question de la manière dont les différents gouvernements sont perçus dans leur pays et on voyait qu'il y avait particulièrement de la défiance à l'égard des gouvernements dans les pays de l'Est. Alors, il était question par exemple de la Pologne ou de la Roumanie. Et il y a en revanche des pays où les gouvernements sont bien suivis, par exemple l'Allemagne. Et puis, il y a des pays médians où il y a de la défiance, même si celle-ci est moindre que dans les pays de l'Est. C'est le cas de la France. Votre point de vue sur cet éventail de choix, comment expliquer, comment le politiste que vous êtes explique-t-il la manière dont les différents pays perçoivent leur classe politique à cette période particulière de notre histoire ?
Eh bien, je crois qu'il faut prendre en considération le fait que la crise sanitaire épidémique met en lumière en fait deux registres. C'est celui d'une part de l'organisation bureaucratique, donc d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, on va avoir une organisation sanitaire plus ou moins rationnelle, plus ou moins bien organisée. Et là en France, on s'est rendu compte que le système était extrêmement fragmenté, qu'on avait plusieurs agences, que le médico-social c'était pas le sanitaire, qu'on avait les agences régionales de la santé, qu'on avait le ministère, qu'on avait les hôpitaux, qu'on avait les organismes de sécurité sociale, qu'on avait les collectivités locales. Bref, on s'est retrouvé dans une situation bureaucratique très complexe qui a évidemment entraîné beaucoup de délais, beaucoup de complications et beaucoup d'erreurs. Donc ça déjà, c'est, si vous voulez, c'est le premier registre, c'est celui de l'organisation de la politique sanitaire et bien entendu aussi des moyens publics qui sont consacrés. Et puis le deuxième registre, et ça je crois qu'il explique aussi beaucoup les différences de confiance, au-delà du, je dirais, de la dimension opérationnelle, c'est la question, je dirais, du système institutionnel et du système politique. C'est-à-dire que la crise a généré de l'anxiété, cette anxiété génère elle-même une demande de protection. Et évidemment, cette demande de protection, elle a des réponses extrêmement variables et parfois des réponses très décevantes, comme ça a été le cas en France. Alors, on peut comprendre que dans certains pays d'Europe orientale, qui sont plutôt des pays dont certains sont, disons, ce qu'on appelle des démocraties libérales, où le régime est assez contesté, où vous avez, comment dirais-je, une forme de remise en cause, de critique de fond du pouvoir exécutif, on peut comprendre que les résultats en termes de confiance soient moins bons. Mais c'est vrai que la situation est un peu similaire en France. Alors, si vous voulez, on a mené, lors de notre enquête d'avril du baromètre de la confiance politique au CEVIPOF, une enquête comparative, et on voit bien que le niveau de confiance dans l'État et dans les informations fournies par l'État en France est beaucoup plus bas que le niveau de confiance qu'on peut observer au Royaume-Uni ou en Allemagne, et dans des proportions considérables, hein, c'est-à-dire que globalement, pour donner juste un petit chiffre, en France on est à 42% de confiance dans les informations du gouvernement, en Allemagne on est à 67%, au Royaume-Uni à 71%. Donc on est vraiment dans une situation, je dirais, médiocre, par rapport aux grands pays comparables, parce qu'il faut aussi comparer en termes de moyens publics, de ressources publiques et de budget. Et c'est là aussi que se pose le problème en France. Donc, si vous voulez, vous avez en France un cas très particulier qui est à la fois la conjugaison d'une critique de l'organisation bureaucratique du système de soins, avec un certain nombre aussi de, je dirais, d'informations contradictoires ou d'injonctions contradictoires qui sont venues du gouvernement. Donc ça a évidemment pas créé de la confiance, hein. C'est le cas par exemple de l'organisation du premier tour des élections municipales. Le gouvernement nous dit bon ben voilà, il faut rester confiné, de l'autre côté, ah ben oui, il faut aller voter. C'est bien entendu j'ose pas dire le feuilleton, mais enfin c'est cette situation absolument kafkaïenne concernant les masques. Donc si vous voulez, vous avez déjà ce premier problème. Et puis déjà, si vous voulez, on voit apparaître quand même dans l'enquête et à travers un certain nombre de critères sociopolitiques, on voit réapparaître cette critique de fond à la fois du macronisme, à la fois, je dirais, de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'en France, on n'est toujours pas sorti du malaise démocratique. Ce qui fait que par rapport à des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, la crise loin de renforcer la légitimité du pouvoir exécutif, la renforce, mais très légèrement, j'ai pas encore quelques chiffres, si vous voulez. Entre février et avril, on a utilisé un panel, donc ce sont exactement les mêmes enquêtés qui ont été interrogés. Et Emmanuel Macron gagne un tout petit peu de confiance, il passe de 33 à 37% de confiance. Mais Boris Johnson qui passait pour l'ébouriffé, le populiste, pour quelqu'un qui n'était pas très sérieux, il passe de 44 à 68. Et Angela Merkel, qu'on disait complètement usée, elle passe de 47 à 58. Donc non seulement le niveau global, si vous voulez, le niveau moyen de confiance vis-à-vis du chef de l'exécutif est beaucoup plus élevé, mais en plus, le taux de croissance est beaucoup plus élevé. Donc si vous voulez, vous avez ce phénomène de défiance en France, à l'égard du système politique, à l'égard des institutions, qui n'a pas été enrayé, je dirais même parfois, qui a été amplifié par la gestion de la crise.
Mais c'est quand même un peu étonnant quand on prend par exemple le cas anglais et Luc Rouban, tout simplement parce que la gestion de la crise n'a pas été, allez, je vais utiliser un terme vague, n'a pas été idéale.
Ah non, mais si vous voulez, vous avez deux phénomènes. C'est-à-dire que vous avez un phénomène de mauvaise gestion bureaucratique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis vous avez ensuite un problème de cohésion sociale et de légitimité ou de légitimation, plutôt de légitimité, des institutions politiques. Mais la cohésion sociale en France, elle est plus faible qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne, du moins sur le terrain de la gestion de la crise épidémique ou de la crise sanitaire. Je vais encore prendre quelques chiffres pour illustrer un petit peu la situation. On a posé des questions, par exemple, sur le fait que, sur le degré de civisme, avant de demander aux enquêtés, est-ce que vous pensez que les Français, les Allemands, les Anglais ont fait preuve de civisme dans cette situation? Eh bien, en France, vous avez un niveau de civisme reconnu très bas, notamment dans les catégories populaires, 49%, ça monte à 62% dans les catégories supérieures, donc vous avez un niveau relativement bas, et vous avez une différence sociale dans les réponses. Mais quand vous prenez le cas de l'Allemagne, eh bien vous passez en fait de 80 à 81%, donc là aussi un niveau moyen très supérieur, mais pas de différence sociale. Et quand vous êtes au Royaume-Uni, eh bien vous êtes au niveau de 86%, quelle que soit l'origine, le profil socio-professionnel de l'enquêté. Donc si vous voulez, on revient renvoyer en France à cette situation du manque de cohésion sociale et, je dirais, des fractures sociales, des fractures sociopolitiques, et donc qui alimentent en permanence cette défiance à l'égard du politique et à l'égard de la gestion de la crise. Mais on est au-delà, si vous voulez, de la simple critique de la gestion bureaucratique du phénomène.
Mais alors, justement, lorsqu'on perçoit donc cette situation en France, est-ce que l'on se dit qu'elle est en quelque sorte consubstantielle à notre système politique, aux choix qui ont été faits en matière donc de choix de société? Est-ce qu'elle est dépassable? Bref, comment expliquer cette situation?
Alors, moi je dirais qu'il y a deux types d'explications. D'une part, il y a une explication qui est, je dirais, conjoncturelle ou semi-conjoncturelle, c'est-à-dire c'est quand même la suite, on paye la suite des élections de 2017 avec un président de la République qui a été quand même largement élu par défaut, qui a été largement critiqué, qui a été forcément mis en cause par un certain nombre d'affaires. Donc vous avez une critique déjà, un mécontentement, en quelque sorte un malaise démocratique qui n'a cessé de se développer depuis 2017. D'ailleurs, bon, je rappelle simplement pour mémoire la crise des Gilets jaunes, la demande de démocratie directe, de référendum, etc. Bon, ça c'est un premier point. Mais un deuxième point, c'est qu'en fait, la mauvaise gestion de la crise, qui est reconnue par tout le monde en France, vous avez une très vaste majorité d'enquêtés qui vous disent le gouvernement a commis des fautes, il va falloir qu'il rende des comptes, etc. Mais si vous voulez, ce terrain, enfin, ce registre de critiques est lié aussi à un autre phénomène qui est plutôt de nature historique. C'est-à-dire qu'en France, on était quand même un petit peu habitué à un État qui avait l'image de la modernité. C'est lui qui modernisait le social. Et donc, cette crise qui se transforme un petit peu, enfin, qui prend un peu la forme de la débâcle de juin 40, est un peu une humiliation pour les Français. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'un système d'action publique qui apparemment était moderne, qui était managérial, puisqu'on en parle beaucoup de ça depuis des dizaines d'années, qui était efficace, et bien finalement se révèle totalement inefficace, totalement improductif. Et si vous voulez, c'est un petit peu la crise de l'État rationnel. Et ça, dans l'imaginaire français, c'est très grave. Parce que déjà, si la démocratie n'est pas terrible, on pouvait bon se dire bon bah voilà, oui d'accord, on n'est pas, peut-être pas dans le royaume de la démocratie, je dirais directe ou de la démocratie participative, mais au moins on a un État peut-être hiérarchique, peut-être centralisateur, mais au moins il est rationnel, il est efficace. Et puis on découvre qu'il ne l'est pas. Alors si on n'a pas beaucoup de démocratie, ou si on n'est pas content de la démocratie, qu'en plus on se retrouve avec un État en ruine, qui finalement est un petit peu celui de la fin de la Troisième République, on est dans une situation évidemment un petit peu compliquée.
Et alors, par rapport à cela, les choix qui ont été faits par le gouvernement, comment influent-ils sur cette situation, Luc Rouban, selon vous ?
Bah, écoutez, le problème, c'est qu'il faudrait savoir quels sont leurs choix ou quels sont ses choix, parce que c'est la question. C'est, vous savez, vous avez eu l'épisode des masques, qui est quand même considérable et qui est quand même, je dirais, qui a marqué les esprits. C'est-à-dire, vous avez eu quand même toute une pléiade de ministres qui sont venus, qui sont intervenus pour dire que ça n'avait aucun intérêt. Il y a même une ministre qui nous a expliqué qu'elle savait même pas comment on mettait un masque. Et puis maintenant, on nous dit que c'est obligatoire, que c'est absolument indispensable. Donc le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations, qui peuvent se comprendre d'ailleurs, faut pas non plus être systématiquement critique, parce que les avis scientifiques étaient parfois partagés, c'était difficile de trancher quand on n'est pas un expert. Mais si vous voulez, vous avez eu le sentiment qu'il y avait beaucoup d'hésitations, d'impréparation. Et d'ailleurs, dans l'enquête qu'on a faite, l'idée d'impréparation, c'est la première caractéristique qui vient à l'esprit des enquêtés français. Hein. Le quart d'entre eux dit c'est l'impréparation. On n'était pas préparé, on ne savait pas. Après, c'est l'incompétence. Alors, si vous regardez du côté de l'Allemagne, c'est pas du tout la même chose. La première caractéristique ou caractérisation qui vient à l'esprit des Allemands, c'est responsabilité, puis ensuite, c'est compétence. Au Royaume-Uni, c'est responsabilité aussi. Vous voyez, on est quand même dans une situation assez difficile. Mais effectivement, les choix étaient mal connus, étaient remis en cause d'un jour à l'autre. Et je pense que ça, cette mauvaise information a alimenté l'idée que, dans le fond, tout ça cachait forcément des stratégies ou des manœuvres, ou de toute façon, à tout le moins, pouvait cacher une certaine incompétence ou le fait que le gouvernement était débordé. Et je pense que ça, c'est très important, parce qu'en cas de crise, évidemment, c'est la tête de l'exécutif qui doit absolument donner le cap, au moins à moyen terme et de manière un petit peu logique.
Mais alors, cela, ça a été vu aussi dans d'autres pays. On a vu que la question des masques, la question des tests, elle revient malgré tout, Luc Rouban. Il n'y a pas qu'en France que cela se pose. En revanche, cette manière de rendre l'exécutif responsable à tort ou à raison, c'est une particularité française.
Oui, parce que si vous voulez, vous avez quand même un système où, malgré tout, malgré la décentralisation, les collectivités locales n'ont pas eu de pouvoir, ou n'ont pas eu de moyens, et souvent d'ailleurs se sont trouvées face à des interdictions lancées par les préfets. Elles n'ont pas pu justement acheter de masques pour protéger leur personnel territorial. Donc vous avez des sanctions, vous avez des interdictions, vous avez des obligations. Il y a ce côté toujours un petit peu répressif. Et puis, si vous voulez, vous avez toujours donc cette quand même cette logique, cette culture centralisatrice qui fait que tout remonte à l'Élysée avec un système institutionnel qui, évidemment, n'est pas celui ni du Royaume-Uni ni de l'Allemagne, qui sont deux démocraties parlementaires. Donc, si vous voulez, je pense que là, il y a la logique même des institutions. Et puis, vous avez quand même toute cette dimension administrative, ce manque de décentralisation des politiques sanitaires, de simplification, et donc par conséquent, vous avez un seul responsable et un seul porte-parole, c'est le chef de l'État et éventuellement le chef du gouvernement. Donc si vous voulez, voilà, on a une concentration du pouvoir, et cette concentration du pouvoir, elle est redoutable, parce qu'elle peut être très efficace, mais elle peut aussi se révéler, effectivement, à la source de bien des contenus, et à ce moment-là, évidemment, l'opinion se retourne très vite.
Quel parti politique ou quel homme, femme politique profite-t-elle de cette situation ?
Bah écoutez, pour l'instant, je dirais personne n'en profite vraiment. Enfin, il faut voir un petit peu les choses d'une manière un petit peu plus large. Entre février et avril, on a vu se passer une chose très simple, c'est une demande d'État, une demande de protection, de protectionnisme économique qui concerne notamment la gauche, bien sûr, mais ça, déjà, le niveau de protectionnisme économique était assez haut à gauche, mais aussi, maintenant, les électorats libéraux. électorat d'Emmanuel Macron, électorat aussi l'ancien électorat de François Fillon. Donc, par exemple, entre février et avril 2020, le niveau de demande de protectionnisme économique par l'État monte de 20 à 40% dans l'électorat de François Fillon. Donc, c'est considérable. Donc, vous avez une demande d'État, vous avez une demande d'efficacité qui augmente. Vous avez quand même aujourd'hui 44% de nos enquêtés qui disent il faudrait peut-être un peu moins de démocratie et un peu plus d'efficacité. Donc, derrière tout ça, vous voyez, vous avez cette attente et cette demande d'efficacité qui peut jouer justement contre la démocratie participative.
Si tant est que les systèmes non démocratiques soient plus efficaces que les systèmes démocratiques, ce qui reste très largement à démontrer.
Tout à fait. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'efficacité de l'action publique peut se démontrer, peut s'articuler de différentes manières et l'acceptation sociale d'une politique et d'une réforme fait son efficacité. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une demande d'État, vous avez une demande de protection, vous avez une demande d'efficacité, mais on n'observe pas un glissement à gauche de l'opinion. On a vraiment la même répartition, que ce soit en termes de proximité partisane, en termes d'échelle gauche-droite. On n'a pas du tout observé un retournement de l'opinion vers la gauche. Je dirais le centre de gravité pour l'instant de l'opinion, il est toujours à droite, des droites au sens général du terme. Et vous avez, je dirais, ceux qui pourraient en profiter le plus et le mieux, pour autant qu'ils puissent trouver un leader idoine, serait issu de la droite parlementaire, c'est-à-dire une droite capable d'articuler à la fois la compétence économique, enfin du moins une prétention à la compétence économique, un visage démocratique qui ne pousserait pas à s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie en France, un ancrage territorial avec une conscience relativement précise des enjeux locaux et du terrain. La gauche ne profite pas beaucoup de cette évolution, enfin de cette crise. On ne voit pas d'éléments. Quant à l'extrême droite, on peut toujours penser qu'effectivement, elle peut appeler à la fermeture des frontières, au nationalisme, mais là, évidemment, elle se heurte au problème de la compétence en matière économique, qui est évidemment un des grands handicaps du Rassemblement national. Donc, si vous voulez.
Mais alors, pardonnez-moi, je vous coupe, Luc Rouban. C'est quand même étonnant parce que on a souvent accusé le gouvernement d'Emmanuel Macron de ne pas être un gouvernement de centre et en même temps, mais d'être tout simplement un gouvernement de droite. Et d'ailleurs, au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron et notamment son premier ministre, mais aussi son ministre de l'économie, on voit bien qu'on a des hommes et des femmes qui viennent plutôt de la droite parlementaire. Dans ces conditions, comment expliquer que la droite est jugée aujourd'hui comme pouvant mieux gérer le pays que ne le fait des femmes et des hommes qui sont déjà plutôt classiquement issus de cette même droite parlementaire?
Bah, vous savez, il y a plusieurs droites. Il y a des droites comme il y a des gauches. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs...
Dans la droite parlementaire, dont sont issus Bruno Le Maire ou Édouard Philippe.
Oui, mais le fait d'en être issu, ça ne veut pas dire qu'ils en font encore partie. Ça serait étonnant qu'ils puissent y retourner. Ça serait étonnant que Bruno Le Maire puisse retourner chez les Républicains, par exemple. Donc, le fait d'en être issu, il faut quand même pas oublier que vous avez toute une partie aussi du gouvernement et des députés de la République En Marche qui proviennent de la gauche et du Parti Socialiste. C'est pas pour ça qu'ils vont revenir au Parti Socialiste. Non, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, le macronisme a été proposé aux Français comme une doctrine de l'efficacité au-delà du clivage gauche-droite. Effectivement, comme vous le dites très justement, vous avez eu un regard des électeurs qui a évolué, c'est-à-dire que le macronisme de centriste est progressivement passé à droite, globalement, dans les enquêtes auprès des électeurs. Mais cela étant, vous avez toujours quand même cette visée qui est de dépasser l'ancien monde, de dépasser les anciens partis politiques, éventuellement de constituer d'ailleurs un gouvernement national de crise et d'union nationale. Et d'ailleurs, on peut se demander sur quelle base. Mais évidemment, une fois que vous avez développé l'argument de l'efficacité, encore faut-il être l'efficace. Parce que si vous ne l'êtes pas, ben, il vous reste plus grand chose à vendre. C'est ça le problème du macronisme aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, l'efficacité managériale, on l'a pas vue. Le problème, il est là. Donc, évidemment, la nature ayant horreur du vide, cette attente et cette demande d'autorité d'État, évidemment, sera incarnée tant que faire se peut par le gouvernement et par je veux dire aussi la République en marche, hein, la majorité présidentielle, mais c'est évident que cela va susciter, je dirais, une concurrence beaucoup plus forte de la droite parlementaire, d'autant plus, il faut quand même pas l'oublier, que l'ensemble, enfin, je veux dire, les conséquences de la crise sanitaire sur le système politique font que vous avez une réémergence du clivage gauche-droite. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas des positions unanimes des enquêtés. Hein. La demande d'efficacité, elle se fait à droite. La demande de démocratie, elle se fait à gauche. Les personnes les plus modestes, ce sont celles qui, évidemment, sont les plus critiques, ont le plus peur et ont le moins confiance. Et vous avez quand même des différences sociales très importantes. Donc, si vous voulez, si vous avez des différences sociales, vous réalimentez mécaniquement la machine électorale droite-gauche, et on peut penser, alors ce sont des hypothèses pour l'instant, il faut rester prudent, parce qu'évidemment on en est encore aux interprétations et aux analyses, mais on peut penser que cela remet en cause justement cette position centrale qu'invoque et que préconise le macronisme, et que dans le fond cette seule logique du macronisme, sinon c'est le Rassemblement National, on peut penser qu'elle sera remise en cause et qu'elle sera peut-être dépassée.
Et alors, pour ce qui est de la gauche, parce que là aussi, on entend beaucoup de discours sur le fait que cette crise peut inciter à rompre avec un certain nombre de pratiques passées, voire avec un système qui aurait montré ses limites à l'occasion donc de cette pandémie. Est-ce que c'est aujourd'hui un thème qui prend dans l'opinion ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'un des grands sujets, si vous voulez, qui va traverser, qui traverse déjà la gauche, c'est le problème de l'écologie politique. Parce qu'évidemment, vous avez quand même cette dimension essentielle qu'est la biosphère, la protection de l'environnement et ses relations évidentes et largement démontrées sur la santé humaine. Donc, si vous voulez, cette question, cette dimension de l'écologie politique est tout à fait fondamentale. Donc, évidemment, la gauche est très fragmentée, très divisée. Je ne pense pas qu'il y ait un soutien tout particulier à des réminiscences ou à des regrets de centralisation bureaucratique de type communiste ou de type, de gauche assez radicale. En revanche, si vous voulez, vous avez cette interrogation autour de la place de l'écologie politique. Et la vraie question pour la gauche, évidemment, mais ça se pose aussi pour la droite, c'est l'équilibre entre le redémarrage économique, la crise économique et la protection de l'environnement. Ça va être un vrai problème. Parce qu'il est évident que là, vous avez effectivement aussi des clivages extrêmement puissants, et la gauche devra se mettre en ordre de bataille si elle veut faire émerger des leaders et des propositions concrètes pour à l'horizon 2022. Mais ça, c'est, je pense, vraiment l'un des grands problèmes de la gauche pour l'instant, avec certainement peut-être aussi des propositions qui pourraient être tout à fait intéressantes, qui seraient celles d'une décentralisation accrue et d'une transformation institutionnelle qui ne mettent pas forcément en cause la Ve République, hein, pas nécessairement une réforme constitutionnelle, mais qui permettent de tirer les leçons de la crise autour d'une nouvelle donne de décentralisation, de démocratie locale, pour écouter aussi cet appel puissant qui est permanent, hein, qui est venu des Gilets jaunes, mais qui est quand même très important dans l'ensemble de l'opinion française, pour plus de démocratie locale et plus de démocratie directe.
Est-ce que vous pensez que cette crise va changer quelque chose à la politique française, Luc Rouban?
Alors, écoutez, là, c'est une question difficile. Bon, je pense qu'effectivement, il y a deux arguments. Je pense que déjà, le système institutionnel ou du moins constitutionnel français sera pas fondamentalement remis en cause, parce que dans le fond, je pense que la première des préoccupations, ça sera de faire redémarrer l'économie et de faire face aux faillites, au chômage, à l'endettement, au déficit croissant et à la baisse du produit intérieur brut. Donc ça, je pense que là, il faut quand même pas être très, il faut être très logique et très lucide sur cette question-là. Donc je pense que tous les projets portés par le macronisme de grandes réformes institutionnelles, bon, je pense que elles seront peut-être il y aura peut-être quelques avancées, mais je pense pas que ça soit la priorité des priorités. Donc sur ce terrain-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution. En revanche, de toute évidence, il va falloir tirer les conséquences de ce malaise démocratique, et comme je vous le disais à l'instant, revoir peut-être les procédures démocratiques au niveau local, je dirais, reprendre le dialogue, et plus que le dialogue, mais revoir les relations entre l'État et les collectivités locales, parce que il est évident que la fracture entre le gouvernement d'un côté, les élus locaux de l'autre et le Sénat a été quand même très visible, et c'est quand même vraiment un point, je dirais, c'était vraiment à l'origine aussi de beaucoup d'inefficacité en matière de crise épidémique ou d'autres crises qui peuvent nous attendre, des crises environnementales ou des crises de différentes natures. Donc je pense que là, il y aura quand même peut-être une réflexion. Et je dirais peut-être une avancée, mais enfin il faut voir qui pourra porter cette avancée en termes de décentralisation, de renforcement du pouvoir communal, je dirais de simplification aussi de l'appareil administratif, parce que s'il y a bien une leçon à tirer de tout ça, c'est qu'on a complètement oublié les réflexions des années 60-70, où on essayait de mettre en place des administrations de mission, on essayait de centraliser, mais de manière fonctionnelle, l'action publique en mettant tous les acteurs en commun sur un seul objectif. Et là, je crois qu'il y aura beaucoup de travail à faire aussi pour vraiment lancer une réforme de l'État. Parce que c'est là aussi, quand même, que les choses se dessinent. C'est-à-dire qu'on a vu, quand même, aussi, la situation pitoyable des personnels hospitaliers. On voit bien qu'il y a aussi, là, une fracture entre les personnels de terrain. Il n'y a pas que les hospitaliers, il y a aussi les territoriaux, il y a la police, les pompiers, etc. Donc, si vous voulez, tous ceux qui sont sur le terrain, qui ont souvent des carrières très médiocres et des salaires très médiocres, et puis une hiérarchie qui souvent ne connaît pas le terrain, ne voit pas trop ce qui se passe, ne sait pas, mais produit des notes et produit des règlements absurdes qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Et donc là, je pense qu'il y aurait vraiment une réflexion à mener. Donc, je ne sais pas si c'est la vie politique, mais c'est quand même, ça fait partie de la vie politique. Et je pense que sur ce terrain, il y aura vraiment des leçons à tirer et à mener. Il faudra vraiment mener cette réforme, parce que jusqu'à présent, on s'est un petit peu contenté d'un ravalement de surface.
Merci beaucoup, Luc Rouban. Je rappelle votre livre, La matière noire de la démocratie, aux presses de Sciences Po, 8h48 sur France Culture.